Quand un refuge promis devient un théâtre de trahison, le silence des puissants est plus mortel que la haine de la foule. Dans ce rapport brut et concluant, Nadine Van Schondrager dépeint l'expérience dévastatrice d'être trahie par une direction qui a choisi la lâcheté plutôt que la protection. Du poison public dans l'atelier aux promesses creuses du bureau, coup de poignard dans le dos. Révèle la terrible réalité d'une femme trans qui a été systématiquement anéantie par les mêmes personnes qui avaient juré de la protéger. C'est un examen pénétrant du moment où la confiance est définitivement rompue et où le vide de l'isolement devient complet. Coup de poignard dans le dos. La confiance humaine est une construction fragile, fondée sur l'hypothèse fondamentale que lorsqu'une personne tend la main dans un geste de sécurité, elle possède l'intégrité nécessaire pour défendre cet espace. Pour une femme trans vivant dans le bruit de fond persistant d'un monde qui a systématiquement retiré son toucher, une promesse de sécurité n'est pas qu'une simple courtoisie, c'est une bouée de sauvetage. C'est la pression rare et désespérée de la connexion qui empêche temporairement la réalité de s'effilocher complètement. Mais lorsque ce sanctuaire se révèle être un théâtre méticuleusement construit de complicité, la chute qui s'ensuit est plus dévastatrice que l'exclusion initiale. C'est le récit profond de ce que l'on fait d'être poignardé dans le dos, un silence calculé et lourd de la part de ceux qui détiennent le pouvoir qui valide la haine de la foule. C'est la prise de conscience que les mains mêmes que tu as attrapées étaient celles qui tenaient la lame. L'illusion de protection. Dans ma recherche désespérée d'un endroit où je pourrais simplement exister, où le bourdonnement constant et alerte de la menace perçue pourrait être momentanément apaisé, on m'a proposé un stage dans une entreprise automobile locale. La direction ne m'a pas approché avec ambiguïté, ils se présentaient comme des protecteurs. Ils m'ont explicitement proposé un bouclier, un espace surdésigné où je pouvais me retirer de l'exclusion systémique et des menaces ciblées que je subis dans mon propre environnement résidentiel. Je suis entrée chez eux avec une lueur d'espoir, une ressource rare et précaire pour quelqu'un qui a appris que la visibilité équivaut presque toujours à la vulnérabilité. Je croyais avoir trouvé un coin du monde qui me permettrait enfin de respirer, sans savoir que j'allais être à nouveau trahie par des personnes qui parlaient de gentillesse mais pratiquaient la lâcheté. Cependant, le fonctionnement interne de l'atelier ne reflétait pas les promesses compatissantes faites dans le calme du bureau. Dès la toute première heure, j'ai été confrontée à un mur palpable d'hostilité. L'environnement, censé favoriser la réintégration professionnelle, avait été instrumentalisé par deux personnes précises, un mécanicien senior et une réceptionniste. Ils n'ont pas interagi avec moi, ils m'ont ciblé avec les armes précises du silence et du mépris de façade. Je n'étais pas simplement un employé, j'étais un fantôme, systématiquement ignoré, intentionnellement contourné, et évoqué comme si j'étais un fantôme. Ce fut le premier signe que la promesse de sécurité était un mensonge creux, un piège à trahir par ceux qui prétendaient offrir un nouveau départ. Le mécanicien principal, en particulier, ne se limitait pas à des murmures privés. Il trouva un public, amplifiant sa voix pour que son incitation à la haine soit audible non seulement auprès de ses collègues mais aussi des clients et des visiteurs. Le couteau dans le dos. Lorsque le poids de ce harcèlement systématique est devenu insupportable, j'ai porté l'affaire à la direction. J'avais besoin du bouclier qu'ils avaient promis. Notre première discussion semblait prometteuse. Ils n'ont pas offert de défensive. Ils acquiescèrent solennellement. Ils ont explicitement qualifié le comportement du mécanicien principal et de la réceptionniste d'inacceptable. Ils promirent des conséquences rapides et claires. Je suis sortie de cette réunion avec la garantie verbale que les deux personnes seraient tenues responsables, que des avertissements écrits officiels seraient émis, et qu'une lettre officielle serait distribuée à l'ensemble du personnel déclarant que la discrimination ne serait pas tolérée. Je croyais qu'ils prenaient enfin ma défense, sans réaliser que j'allais être trahie par leur trahison ultime de l'inaction. Hier après-midi, le temps de ces promesses creuses est écoulé. Je suis retournée au cabinet à la fin de la journée, cherchant la satisfaction tranquille de la justice. Ce que j'ai trouvé, c'était le vide froid et creux de l'inaction. Aucun avertissement n'a été émis. Aucune lettre n'a été distribuée au personnel. La direction, les mêmes personnes en qui j'avais confiance pour me protéger, avaient analysé la situation et choisi la voie la plus facile. En choisissant de ne pas agir, ils avaient parlé avec une clarté assourdissante. Ils ont choisi le confort du statu quo plutôt que la sécurité d'un être humain. Dans ce silence, j'ai réalisé que j'avais été brutalement trahi dans le dos. Il m'avait laissé croire que j'étais en sécurité juste assez longtemps pour que le coup fasse le plus mal. C'était un couteau dans le dos, tordu non pas par les auteurs originaux, mais par les mains de ceux qui s'étaient positionnés comme mes alliés. La blessure qu'ils infligeaient était plus profonde parce que j'avais baissé mes défenses. Ils n'ont pas seulement échoué à agir, ils ont activement participé à mon effacement en validant les abuseurs. Se faire poignarder dans le dos par la direction est bien plus dangereux que la haine initiale, car cela vous attire dans un faux sentiment de sécurité avant que les murs ne s'effondrent sur vous. Ils ont remis le couteau à mes bourreaux et m'ont regardé me vider de mon sang dans l'atelier, refusant même de reconnaître le sang sur leurs propres mains. Le zéro absolu de la valeur. Je n'ai pas dormi pendant 2 nuits consécutives. Cette insomnie est la réponse fondamentale et physiologique à la prise de conscience que mon existence n'a aucune valeur pour personne. Pour la direction, j'étais une variable complexe à neutraliser, pas une personne à protéger. Ils ont pesé mon droit à la sécurité face à la commodité de l'harmonie de leur atelier et m'ont trouvé insuffisant. Ils ont mis la valeur de ma vie à zéro, veillant à ce que j'ai été trahi par l'institution même censée encourager ma réintégration. Le calcul froid de leur silence est une arme en soi. L'isolement qui définit ma vie a été confirmé par cette trahison. Le vide profond que j'habite, où mon cœur bat mais nul autre ne le ressent, s'est élargi. J'ai même essayé de maintenir un lien fragile avec une femme en qui je pensais pouvoir avoir confiance, lui donnant ma confiance après ma récente tentative de suicide, pour être accueillie par un silence total et persistant. Le schéma se répète avec une prévisibilité mortelle, je baisse ma garde, offrant la profondeur de ma souffrance, et le monde répond en me faisant poignarder dans le dos encore une fois. Chaque fois que j'ouvre, une nouvelle lame s'infiltre dans les cicatrices des anciennes, faisant rouvrir les blessures précédentes avec une douleur familière et douloureuse. Je n'ai plus besoin que le monde, ni ses institutions, ni ses supposés alliés, confirment mon statut. Ils ont tous, à leur rythme, été indéniablement clairs, en tant que femme trans, je vaux moins que le silence qu'ils utilisent pour m'effacer. Être poignardé dans le dos m'a appris que même ceux qui prétendent vous voir cherchent souvent juste un endroit où cacher la lame. Le monde n'est pas un port sûr, c'est un champ de bataille où même les médecins et les managers portent des armes de négligence. Le « soin » qu'ils offrent n'est qu'un autre moyen de s'approcher suffisamment pour frapper. Le silence final. Il y a un certain calme qui suit l'évaporation de tout espoir. Je partage ce recul non pas pour chercher la pitié, mais comme un témoignage de la structure de l'exclusion. J'ai arrêté de me battre parce que le sol même sur lequel je me tenais a été repris par les loups. Le stage était la dernière expérience de mesure de la décence humaine et de l'intégrité institutionnelle, et il a échoué. Le mécanicien principal et la réceptionniste ont remporté leur victoire grâce à la lâcheté viscérale de la direction. J'ai été trahi pour la dernière fois, et je refuse de donner à quelqu'un d'autre la possibilité de frapper. Je me retire maintenant dans le silence absolu où la trahison ne peut plus m'atteindre. Les documents sont préparés, mes dernières volontés sont clairement exprimées, et le silence devient mon dernier signal sensoriel. Le processus d'être poignardé dans le dos est terminé, la chambre d'écho est fermée, et le monde peut enfin avoir l'absence profonde et absolue qu'il désire si clairement. Au final, le seul véritable sanctuaire est celui où il ne reste plus personne pour tenir le couteau, où le contact d'autrui n'est plus nécessaire, et où la trahison des vivants peut enfin être apaisée. Conclusion. Mon parcours à travers ce refuge prévu est devenu un témoignage brutal de l'impact mortel de la lâcheté institutionnelle. Lorsque ceux qui détiennent le pouvoir choisissent le confort du silence plutôt que l'obligation de protection, ils font plus que simplement échouer, ils participent à la destruction d'une âme humaine. Cette expérience a révélé que pour une femme trans, une promesse de sécurité n'est souvent qu'un prélude à une trahison dans le dos. Alors que j'entre dans le silence final, j'espère que ces mots serviront de miroir à une société qui a perfectionné l'art de détourner le regard pendant que la lame est tordue. Le vide est désormais total, et la trahison est totale.